Quelque part, dans les sous-sols d'Orléans.
Mes amis, si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est que les choses doivent mieux s'organiser pour nous dans cette ville.
Ouais ! C'est pas faux.
Cela fait trop longtemps que la musique est mal considérée.
Ouais !
Il est temps de montrer aux limonadiers de quoi nous sommes capables.
Ouais !
Je vous propose un nom qui nous unira et que nous brandirons aux quatre coins de l'agglomération. Mesdames, messieurs, mes amis disques jockeys, que le Saint-Disque soit.
And now, here's your punishment.
Bon, maintenant, qui s'occupe de la bâche?
Faut arriver à quelle heure pour les balances?
Il nous file à manger?
150 balles?
Vous êtes sûr que vous pouvez pas me filer du liquide pour la presta de vendredi dernier?
Ma voiture a lâché et j'ai plus mon permis. Quelqu'un peut m'emmener avec ma sono?
Ok, t'as les platines, mais qui est-ce qui ramène les enceintes?
Qui a des XLR de 30 mètres à me prêter?
Super, je vais pouvoir passer de la techno!
Et les gars, on mixe encore dans un brunch.
Quelqu'un a des trucs pour éviter le rumble sur les vinyles?
Et c'est le funny?
Et c'est payé pour la fête de la musique? Parce que moi j'ai acheté du sirop banane, du sirop orange, du sirop citron, du sirop menthe, et j'attends encore qu'on me rembourse la facture, s'il te plaît.
Ah putain!
You so regret what you have done! Now you do!
Et il est 18h, vous êtes sur Radio Campus, c'est l'émission du Saint-Disque et c'est The KLN qui vous parle. Et aujourd'hui, on est parti pour 2 heures d'émission avec beaucoup d'invités. Là, le studio en face de moi, il est rempli. J'ai plein de personnes à vous présenter. On commencera aussi par un DJ set. On aura aussi un DJ set. Voilà. Alors, c'est pas très gentleman, mais d'ailleurs, par rapport à ce DJ set, oui, je vais commencer par Log, monsieur le DJ, le seul DJ de cette table.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Eh ben, ça va et toi?
Super, la forme. Hâte d'entendre ce que tu vas proposer. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas nous proposer?
Eh ben, écoute, ça va être un peu random. Je sais pas encore exactement ce que je vais jouer. Il y aura un peu de house, évidemment. Il y aura de la funk, il y aura de la disco, il y aura de la deep, il y aura plein de trucs.
D'accord.
Ça va être surprise.
Okay.
Mais moi, je sais pas ce que je vais jouer.
T'as l'habitude de préparer tes sets ou pas du tout?
Normalement, ouais. Et là, j'avoue que le temps m'a manqué. Mais du coup, c'est bien parce que je pourrais y aller en mode vraiment freestyle. Quoi.
À l'ancienne.
Ouais, c'est
comme
ça.
Comme les bons DJ. Alors, tu viens de quelles influences en gros? Là, t'as parlé de la house, de
ouais.
Choses comme ça. Est-ce que toi, tu viens vraiment de la house ou tu es arrivé à ça?
Ouais. Bah, moi, si tu veux, ça fait 30. J'ai 32 ans et je pense que j'écoute de la house depuis 27 ans. Et j'en fais depuis une quinzaine d'années. Donc oui, je peux te dire que je viens vraiment de la house avec une grosse influence French Touch, évidemment, parce que j'ai grandi avec ça. Et donc du coup, pas mal de disco, pas mal de funk, pas mal de samples. En fait, j'ai appris la disco et la funk par les samples de house. Et puis après, j'ai évolué avec tous les styles qui sont arrivés depuis 2005 jusqu'à maintenant. Donc j'ai passé partout, la progressive, la deep house, la disco house, jusqu'à maintenant avec une grosse influence UK Garage.
Okay.
Donc vraiment ouais, très house et voilà, j'essaie d'évoluer avec la musique en même temps, de pas perdre le fil parce que ça va très très vite aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de styles qui se créent, même des micro styles qui arrivent. Donc ouais, je suis vraiment 100% house. Ouais.
Ça t'est venu d'où cette passion pour la house?
Bah je te dis, je pense que ça vient vraiment de mon enfance, le fait que j'ai écouté beaucoup de French Touch, que moi je suis vraiment
French Touch. Tu penses à quel artiste? Les Daft Punk?
Ouais, bah Cassius, Mojo, Stardust,
ouais,
Superfunk, vraiment toute la French Touch, moi je l'ai vraiment prise quand j'avais 5-6 ans, donc j'ai grandi avec. Donc c'est vraiment mes références, et même au niveau de la production, c'est vraiment des choses que j'essaie de retrouver maintenant quand moi je produis. C'est des sonorités French Touch, en essayant aussi de les mettre un peu plus au goût du jour, de ne pas refaire exactement la même chose qu'eux, parce qu'évidemment ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais la chance qu'on a, c'est que la house, c'est des cycles, et donc régulièrement, la house
les cycles revient.
Ouais, c'est ça, la house
en ce moment, on
revient.
Est un peu dans un cycle de la house de Chicago, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, ouais, et puis on est pas mal aussi UK Garage,
ouais.
Donc en fait tout ce qui va être Fred Again, Salut, Sammy Fergie, c'est des mecs qui tournent énormément et qui font vraiment une grosse influence aujourd'hui. Et forcément quand tu suis la house, bah, c'est sûr que tu les connais, c'est sûr que tu les écoutes. Et là je pense qu'on arrive un peu au bout de ce truc là, mais en tout cas ouais, là depuis 2-3 ans la UK Garage c'est vraiment le style qui prédomine. Ouais.
T'as parlé de production.
Ouais.
Venons-en. Tu produis aussi, tu fais des titres.
Je produis, effectivement.
Donc, même style, j'imagine.
Ouais, alors c'est pareil, hein, j'ai évolué pas mal entre le début et maintenant.
Ouais, tant mieux.
Ce qui est plutôt bien, ouais. C'est vrai que j'aime beaucoup de choses, donc j'ai envie de produire beaucoup de trucs. Mais ouais, là, je suis passé maintenant plus, pas du coup, dans une partie un peu plus, des morceaux un peu plus ciselés. Avant, j'étais vraiment dans le délire, je faisais des morceaux de 7 minutes avec intro, machin, etc. Maintenant, je suis plus sur des trucs plus streaming, on va dire, c'est-à-dire des morceaux de 3 minutes max, dans la vibe house, disco aussi. En essayant de tester des trucs à chaque morceau, de faire un morceau un peu dans une vibe un peu différente, tout en ayant un peu la même patte à chaque fois. Quoi.
Et tu sors tes morceaux de quelle manière ? Est-ce que tu les sors de toi-même ou via des labels ?
Alors là, ça fait un petit moment que j'ai rien sorti, donc là l'idée c'est de reprendre et de faire un morceau par mois. C'est vraiment le but que je me fixais pour le 2024-2025. Et jusqu'ici, j'ai sorti pas mal de trucs avec des labels. Donc j'ai sorti des trucs chez Nervous aux US.
Ce qui est pas mal du tout,
c'est un très très gros label américain. J'ai bossé aussi, j'ai fait un track pour le label de Laurent Garnier, Code QR. Pareil,
je pense qu'il y a très très besoin de présenter.
Voilà,
Laurent
très
Garnier.
Très belle rencontre, vraiment.
Tu l'as rencontré
incroyable.
Aussi
Je l'ai rencontré une fois, ouais, on a beaucoup échangé par mail aussi. Et mec, super sympa, vraiment un des mecs les plus humains, je crois, que tu peux trouver dans la scène. Et voilà, et donc du coup pas mal de labels, pas mal de petites structures, et maintenant j'ai envie aussi de moi de pouvoir gérer toute la partie artistique, c'est-à-dire gérer la promo, gérer les covers, gérer les clips, vraiment de pouvoir avoir la main dessus, parce que c'est vrai que quand on est indé et qu'on bosse avec des labels, on est un peu finalement
un homme à tout faire.
Ouais, c'est ça, casquettes. Mais en fait quand tu bosses avec des labels, tu rentres dans un système où en fait toi t'es un élément dans leur machine, et ils font un peu ça à la chaîne, et c'est un peu frustrant parce que du coup t'as pas la main sur ce que tu fais. Et toi,
t'aimerais reprendre la main
Ouais.
Ok. Est-ce que tu trouves que c'est pas un peu bouché la voie des labels en ce moment ?
Oui et non. En fait, ça dépend ce que tu cherches à faire. Si tu veux te développer, le mieux c'est de commencer à te développer tout seul et ensuite d'attendre que le label vienne te chercher. En fait, faut pas se dire que tu vas partir de zéro et qu'un label va te faire péter, ça sert à rien. En fait, maintenant, les mecs, ils signent que des gars qui sont déjà installés, qui ont déjà des gros comptes Instagram, TikTok, etc. Donc, faut déjà bosser, en fait, malheureusement, j'ai envie de dire, l'image et le son, et attendre ensuite que tu aies un gros label ou une major qui t'a... Enfin, une major. On va dire un gros label qui te contacte pour bosser ton projet avec toi. Mais en fait, au départ, t'es obligé de tout faire toi-même. C'est ce qui rend le truc à la fois excitant et en même temps très compliqué, parce qu'il faut avoir... faut faire quatre métiers en même temps.
Bah, la seule composition ne suffit pas, en fait.
C'est ça. Aujourd'hui, c'est, on va dire... avant, c'était 50-50. Je pense que maintenant, on est à 60-40 pour l'image, quoi. Donc, c'est à ne pas négliger. Malheureusement, tout le monde n'a pas ni l'envie ni le temps de le faire. Et surtout quand on fait de la prod, ça prend beaucoup de temps. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que voilà, il faut avoir vraiment un planning et savoir exactement ce que tu veux faire. Et je pense que ça va malheureusement écrémer et filtrer pas mal de gens qui vont pas avoir envie de te faire tout ce boulot-là, quoi.
Je comprends. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs ?
Alors, sur Instagram, Facebook. Alors, Facebook, enfin, ça
c'est quoi ton petit Insta ?
Alors, mon Instagram, c'est Logsound, donc log.sound,
Logsound.
Ouais, okay. S-O-U-N-D. Là, ça fait un petit moment que j'ai rien posté parce que je te dis, je suis un peu en pause. Mais l'idée, c'est que ça reparte, donc normalement, il y aura des choses assez rapidement dessus. Voilà. Et après, SoundCloud aussi, avec pas mal de remix et de morceaux pour lesquels je n'ai pas les droits. Typiquement, dès que j'utilise un sample. Que je peux pas sortir, je passe par des contacts de chaînes SoundCloud qui me permettent de sortir les morceaux, qui aient de la visibilité, que les gens puissent l'écouter. Je gagnerai pas d'argent dessus, mais au moins je sais qu'il y a des gens derrière qui kiffent.
Et t'es pas ennuyé au niveau des droits d'auteur quand même.
Ouais, c'est ça.
Ok,
ouais.
Ça c'est intéressant aussi. Ok, très bien. Donc tu prévois quand des sorties là, globalement ?
Bah, j'aimerais te dire avant-hier, mais je ne sais pas. Ouais. C'était censé être là, et puis en fait j'ai une vie qui est malheureusement manquée. Heureusement très rond, puisque j'ai deux enfants et que j'ai pas forcément le temps de faire autant de musique que je voudrais. Et puis comme je te dis, ça prend beaucoup de temps de gérer la partie artwork, les vidéos, les trucs, de penser la DA. C'est un taf en soi, quoi. Donc, mais normalement, j'espère que pour novembre, ce sera bon, quoi. Normalement.
Tu vas passer certains de tes titres ce soir ?
Il y aura des trucs à moi, ouais.
Ok.
Ouais.
Ah, ça c'est top. Hâte d'entendre ça. Très bien. Je vais te laisser. Alors, j'ai commencé par toi. J'ai dit que c'était pas très gentleman et je vais expliquer pourquoi. J'ai commencé par toi parce qu'évidemment, tu mixes juste après la phase d'interview. Donc, je vais te laisser revenir tranquillement de mon côté dans ma cabine pour pouvoir te préparer au mieux. Et j'ai dit que c'était pas très gentleman. C'est vrai. Je m'en excuse car maintenant, dans la cabine invitée, il ne reste que des femmes. Et on va commencer par Éléonore.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Éléonore, comment tu vas ?
Ça va très bien, je suis très contente d'être là.
Ok, toi, super. Ça va ? Très content que tu sois là aussi, ça va super. J'adore. Trop bien, merci beaucoup d'être venu.
Avec plaisir.
Alors, qu'est-ce que tu fais un petit peu, Eleonore? Tu n'es pas DJ, tu n'es pas DJ.
Non.
Apparemment, j'ai entendu, on m'a dit ça récemment, il ne faut pas dire DJ parce que ça peut être très mal pris. Donc, je ne le dis plus, je le dirai plus.
On le saura.
Voilà, il faut le savoir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis wedding planner.
Wedding planner.
Alors,
qu'est-ce
pareil
que
pour les DJ, on ne dit pas wedding planeuse, on dit wedding planner.
Ah là là,
voilà, on ne le conjugue pas, c'est anglais.
Ok, très bien, donc il faut le savoir aussi. Ouais. Ça aussi, je vais le noter, comme ça je ne le dirai plus.
Donc, organisatrice de mariage.
Voilà. Ok, alors ça consiste en quoi? Comment tu pourrais résumer ce métier?
Oh, alors, le résumé, parce que c'est compliqué, parce qu'on fait... Thomas l'a dit tout à l'heure, on gère plusieurs métiers en même temps. Pour moi, c'est un peu pareil, parce qu'on ne fait pas que du mariage. Du coup, on est aussi entrepreneur, on est aussi comptable, on est aussi social media, etc., etc. Mais faciliter l'aventure de l'organisation du mariage pour tous les futurs mariés, pour qu'ils n'aient à s'occuper de rien à part des choses chouettes. Donc voilà, la déco, la couleur. Donc, et moi, je m'occupe de tous les trucs un peu moins fun.
Donc pour résumer, c'est toi qui prends le stress de tous les mariés le jour de leur mariage.
C'est exactement ça.
C'est
encore mieux résumé que moi.
Et comment tu le vis, ce stress? Parce que, et comment les mariés aussi le vivent, en fin de compte? Comment convaincre des mariés qui ne savent pas forcément ce qu'est le métier de wedding planner? Comment leur dire qu'en fait ça peut leur servir énormément?
C'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai quand même un métier qui n'est pas forcément hyper bien reconnu. On se dit oui, on peut le faire, je peux le faire, oui ça me fait gagner du temps, mais bon, on va faire en sorte que ça marche, on va trouver des techniques. Oui, on peut, effectivement, tout le monde peut le faire soi-même, mais alors à quel prix? Parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de stress, tu l'as dit. Et moi, mon métier aussi, c'est de, en amont, ce que vous ne voyez pas, enfin ce que les mariés ne voient pas, c'est qu'on fait des visites, on fait des rencontres avec des prestataires, avec des DJ, avec des photographes, les lieux de réception. Les mariés, ils n'ont pas le temps de faire tout le tour de tous les prestataires de leur région pour savoir lequel va leur convenir ou pas. Donc voilà, moi, je suis là pour un peu centraliser tout ça et puis faire un peu un entonnoir et leur dire, ce prestataire est fait pour vous, celui-là un petit peu moins, celui-ci est peut-être un peu moins avenant, celui-ci un peu plus, enfin voilà. On est là pour gérer un peu tout ça.
Et qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait, en fin de compte?
L'adrénaline.
L'adrénaline,
je dirais ça.
Okay.
Ouais, j'ai passé plusieurs années dans la vente, dans le prêt-à-porter, dans l'horlogerie notamment. Et puis au bout d'un moment, tu dis un peu toujours la même chose, tu fais un peu toujours les mêmes gestes. Et puis, c'est pas que c'est ennuyeux, mais c'est pas super épanouissant au bout d'un moment de toujours faire exactement les mêmes choses. Et là, t'as le côté humain, chaque couple ne se ressemble pas, ils ont tous leur histoire, ils se sont tous rencontrés de façon différente, ils ont tous des approches différentes avec leur famille. Les prestataires, quand tu rencontres un petit peu tout le monde, on prend des cafés ensemble, on prend des petits verres ensemble, on apprend à se connaître sur le terrain et tout. C'est génial, je trouve ça génial.
Est-ce que tu trouves que, parce que moi, j'ai fait pas mal de mariages aussi cette année, dont un qu'on a fait en commun.
Tout à fait.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et est-ce que tu trouves que le mariage, c'est aussi un moment un peu magique, un peu en dehors du temps?
Ouais, complètement. C'est normalement, à part si vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de chance, mais c'est un des seuls jours de votre vie où vous allez pouvoir réunir absolument tout le monde, de tous les horizons confondus, que vous allez pouvoir réunir toute votre famille qui est peut-être éparpillée un peu partout en France ou dans le monde, vos amis de divers horizons, les collègues, si vous invitez vos collègues. Enfin, je trouve ça un côté très... c'est très convivial, c'est beau, c'est là où tu fais ressortir tous les moments d'émotion avec tout le monde. Moi, je sais que j'ai un petit faible pour les premières danses avec la mariée avec son papa ou le marié avec la maman. Enfin, je trouve ça beau, c'est chouette à voir.
Et la dernière fois, je me suis retrouvé aussi sur un mariage où là, il y avait carrément une équipe de wedding planner. Donc
ouais.
Tu dois sûrement connaître l'entreprise, c'est D-Day Wedding.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Parce que toi, tu travailles toute seule globalement sur les mariages. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui travaillent en équipe et qui sont plusieurs à cadrer en fait les mariés?
Alors, ça va dépendre de l'envergure du mariage surtout. Si on a travaillé ensemble sur le mariage précédent en juillet, j'avais honnêtement pas besoin d'une équipe Par contre, sur de très très gros mariages où il y a vraiment une grosse équipe de prestataires, ou alors qu'il y a plus de 150, 200, 300 invités parfois, voire même plus, sur des gros domaines, tu peux pas être partout à la fois. Et là, effectivement, c'est carrément confortable d'avoir des consoeurs avec toi. Donc ça peut m'arriver de le proposer à des mariés où je sais que ça va être un gros mariage, parce que de toute façon, c'est pas possible seul. Sur le terrain, l'organisation en amont, effectivement, je vais la faire seule, puisque ça, je peux le faire. Par contre, sur le terrain, avec les hectares de domaine et tous les invités à gérer, c'est juste pas possible seul, et c'est génial d'avoir des consoeurs.
D'accord. On va passer un petit peu à une sorte d'anecdote. Est-ce que tu as une anecdote, par exemple, sur un mariage qui s'est pas forcément très bien passé ? Est-ce que ça t'est arrivé ?
Alors,
que tu ressortes un peu déçu d'un certain événement ou que ça ne se soit pas passé comme tu l'avais imaginé?
Alors, je touche du bois pour l'instant, non. Mais je sais que ça va m'arriver.
Tu penses que ça va t'arriver?
Toujours. Bon, dans n'importe quel métier, on a des inconvénients et des avantages. Donc, ouais, je m'y attends. Je dirais que le plus délicat, je trouve, à gérer, c'est les proches. Les familles ou les beaux-papas, les belles-mamans.
Qui sont toujours un peu stressés aussi.
Qui sont toujours très stressés. Bon, c'est pour ça qu'on est là aussi. En général, quand tu as la chance de pouvoir avoir une wedding planner, c'est toujours plus confortable pour les mariés. Mais tu peux des fois avoir à gérer, la maman qui n'est pas du tout d'accord avec le choix du traiteur et puis du coup qui fait stresser la mariée. Ou voilà, des choses comme ça que je dirais que c'est un peu plus délicat et touchy à gérer. Mais je suis là pour ça, bon.
Et à l'inverse, est-ce que tu retiens, par exemple, un mariage où il y a eu un moment un peu magique dont tu te souviendras probablement toute ta vie ?
Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Ou une chanson qui t'a marqué, un choix de mariée qui a rendu, par exemple, sur une première danse,
ouais,
qui a rendu le moment vraiment magique ?
Toutes les premières danses entre les mariés et leur papa, j'adore. C'est mon moment préféré. Je pense que ça doit venir du fait que moi, j'ai une relation aussi assez privilégiée avec mon papa. Je lui fais un coucou s'il m'écoute. Mais je trouve ça très beau. Chaque fois, ça me fait tirer la petite larme.
Ok. Eh ben super. Où est-ce qu'on te retrouve ? Par exemple, là, s'il y a des auditeurs qui disent « Tiens, on va se marier, on n'a pas de wedding planner. » Où est-ce qu'on te retrouve ?
Alors, je vous attends sur Instagram, donc Eleonore, Eleonore, Garat, Garat. Tiré du bas, wedding.
Ok.
Voilà. Après, sur Pinterest, c'est exactement le même pseudo. Et sur TikTok aussi, si vous avez envie.
Ah, t'as TikTok aussi ?
Ouais.
Ok.
Ouais, on s'amuse des fois sur TikTok.
Ah, bah très bien.
Ça nous arrive, c'est chouette.
Super. Donc, on peut te retrouver sur plein de médias différents.
Ouais.
Et bah très bien. Je vais passer à mes... Merci. Merci, Eleonore.
Avec
Merci
plaisir.
Beaucoup pour ta venue. Je vais passer à mes dernières invitées. J'ai nommé Lilou et Alice.
Bonsoir.
Comment vous allez ?
Bonjour.
Ça va très bien.
Oui, moi également, en okay. forme.
Donc on termine par vous deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ?
Alors moi, je m'appelle Lilou, j'ai 19 ans et on a la chance d'être danseuse pour la première chaîne de cabaret de France, Les Cabarets Voulez-Vous ?
Et moi, je m'appelle Alice, ou Ella, c'est mon nom de scène. Et pareil, je suis danseuse, je danse avec Lilou au Cabaret Voulez-Vous ?
Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a amené un peu jusqu'ici, en fin de compte ? Pourquoi le cabaret ? Enfin, pourquoi le cabaret ? Quelle est votre histoire ? Qu'est-ce qui vous touche en fait dans cet univers ?
Alors, ce qui est chouette, c'est que là, vous avez deux danseuses qui ont des parcours très, très, très différents.
Et ça, c'est chouette, effectivement.
Donc, ça pourra montrer aux jeunes filles, aux jeunes garçons que peu importe du milieu dans lequel vous venez, vous pouvez possiblement vivre de votre passion, ce qui est mon cas. Parce que moi, j'ai toujours vécu à la campagne, en Auvergne, et malheureusement, je n'avais pas accès à de très bonnes écoles de danse. J'ai commencé par beaucoup de gymnastique, puisque je préférais le plus, c'était danser sur le praticable plutôt que faire des saltos arrière. Du coup, mes parents, ils m'ont décalé à la danse. J'ai commencé par faire du rock sauté dans un petit club de campagne, puis j'ai décidé d'aller à l'internat pour pouvoir profiter d'une meilleure école. Cependant, il y a eu le Covid. Et puis j'ai fait une grosse phobie scolaire, déscolarisation, donc ça pourrait effrayer. Mais malgré tout ça, ma maman m'a toujours dit « Écoute, je suis sûre que le cabaret, c'est ton truc. » Puis moi, je passais des heures et des heures, jour et nuit, pendant le confinement, à danser dans mon garage sous la poussière, à me traîner par terre. Puis elle m'a dit « Il faut que tu découvres un cabaret dans la campagne, je suis sûre que ça te plairait. » Et puis j'y suis allée, Puis j'ai eu un très gros coup de cœur avec la directrice artistique et une danseuse également de là-bas. Et puis l'anecdote, c'est que pour mes 18 ans, je suis allée voir un très gros cabaret à Paris et j'ai dit pour mes 19 ans, je veux aller voir le cabaret Voulez-vous. C'était mon rêve. Et puis, la dame chez qui que j'avais rencontré pour découvrir l'univers du cabaret m'a inscrite aux auditions et ils m'ont gardée. Et du coup, j'ai pu danser avant même d'aller le voir.
Incroyable.
Donc vraiment une histoire magique. Et pour Alice, c'est totalement différent, mais tout aussi merveilleux.
Ah oui, c'est quasiment l'opposé en termes d'histoire.
Raconte-nous.
Parce que moi, j'ai commencé très très tôt. Depuis toute petite, je danse. Et donc, vers 3-4 ans, on m'a mis un petit peu à la gym, puis à la danse. Je voulais aussi faire du patinage artistique. J'aimais tout ce qui était artistique, bouger mon corps, etc. Et à 10 ans, j'ai passé une audition pour entrer dans une école de danse-études, donc sport-études, mais axée sur la danse. Donc avec un rythme très soutenu, on avait la demi-journée, donc le matin, où on faisait que des cours de danse, classiques, beaucoup de classiques et du contemporain, et l'après-midi, des cours scolaires, donc pour avoir un cursus quand même normal. Et j'ai fait ça pendant 8 ans. Et le milieu de la danse classique ne me convenait plus. C'était pas adapté pour moi, je trouvais ça trop dur. C'est quand même un milieu très spécial où on demande beaucoup à de jeunes enfants et à des adolescents qui sont en construction. Donc
il y a une grosse exigence, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et au niveau des pièces qui sont interprétées, est-ce que c'est des choses qui sont parfois trop complexes, trop contemporaines ? Au niveau des pièces, au niveau des danses qui sont demandées, est-ce que c'est parfois trop contemporain, trop complexe pour l'âge ?
C'est pas spécialement ça, c'est juste que c'est un milieu très compétitif.
D'accord.
J'étais en internat donc, depuis mes 10 ans, donc séparée de mes parents. Je me retrouve avec des enfants qui viennent de milieux totalement différents, beaucoup de milieux plus aisés, donc j'étais un peu à l'écart. C'était un rythme juste trop intense pour des enfants. Donc c'est sûr, on cherche l'excellence, mais en termes de santé mentale, c'était très compliqué. Et donc, ça ne me convenait plus. Et j'étais très inspirée par tout ce qui était costumes, paillettes. Moi, tout ce que je voulais, c'était être sur scène et m'amuser. Et c'est ce que je ne retrouvais plus dans le milieu du classique ou du contemporain, où on nous demandait, au contraire, de rechercher plus quelque chose de déchirant. On cherchait la torture intérieure, des choses comme ça. Bref, moi je voulais juste vibrer sur scène, me maquiller, me sentir jolie, voilà, c'est tout ce que je voulais.
Et j'ai connu un peu quelque chose de similaire avec mon parcours étudiant. Moi, j'étais en fac de musicologie et on s'attend forcément à étudier plein de choses et parfois on est un peu déçu parce que l'axe choisi par certains professeurs est tellement culturellement trop dans des sphères... inimaginable que ça dégoûte un petit peu parfois.
Ouais.
Je me souviens qu'il y avait un professeur qui nous avait fait étudier une œuvre d'un contemporain moderne, enfin d'un compositeur moderne, enfin des années 50 quoi, qui s'appelait Stockhausen et ce personnage a composé pour notamment 4 violons et 4 hélicoptères et ce professeur nous faisait étudier ça sur partition, c'était parfaitement imbuvable. Donc c'est ouais, il y a tout un univers avec je trouve tout ce qui touche à la musique classique qui est parfois un peu trop élitiste.
Ouais.
C'est vrai.
Faut pouvoir se retrouver.
Exactement.
En fait, dans le milieu artistique, c'est difficile, il y a beaucoup de branches et faut savoir s'identifier au bon endroit et au bon moment, je pense.
Exactement, et puis ça doit être du plaisir parce qu'à la base, quand on va dans un domaine artistique, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on est vraiment touché comme bah, vous l'avez raconté et si ça devient être quelque chose qui nous dégoûte effectivement, c'est pas
terrible. On fait plus vibrer les gens et non. Les gens ne viennent plus nous voir. Donc
c'est
il
ça.
Faut toujours qu'on soit passionné.
Et on devient des artistes maudits ensuite.
C'est ça. On devient des robots.
Ouais, aussi.
Finalement.
Et Alice, est-ce que tu as eu un soutien de tes parents, par exemple, comme Lilou a pu avoir avec sa mère quand tu t'es lancée dans le cabaret ?
Totalement.
Totalement. Ça, c'est une chance aussi.
Bah, c'est aussi parce que mes parents voyaient depuis longtemps que c'était ce qui me faisait vibrer, c'était ce que j'aimais. Même le côté plus cabaret, plus sexy un peu de la danse, ils étaient totalement ok avec ça, parce que c'est vraiment ce que j'aime. C'est là où je me sens libre et où je m'épanouis. Donc ils m'ont vachement soutenue. Quand j'ai voulu arrêter la danse classique, après quand même 8 ans dans une école qu'ils ont payée, ils ont totalement accepté, ils m'ont soutenue, ils ont toujours cru en moi. Et c'est vraiment une chance, parce que aussi je vois beaucoup dans mon entourage des parents... qui sont un peu plus durs avec leurs enfants ou qui leur coupent un peu l'herbe sous le pied. Et donc, oui, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là.
Ok, très bien. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément bien le métier de danseuse de cabaret. Enfin, je pense que le grand public n'a pas vraiment idée de ce que ça représente, comme le métier avant d'Éléonore, le métier de wedding planner. Est-ce que, enfin, comment vous pourriez résumer ce métier brièvement?
Ok, est-ce que je peux te faire par exemple une journée type? Comment elle se passe?
Exactement.
Ok. Alors, on propose deux types de spectacles différents. On danse dans une revue traditionnelle qui, elle, se passe du coup les midis, les jeudis et les dimanches midi. Et le soir, on joue dans une comédie musicale qui s'appelle Diva. Je vais faire comme si on était le soir, c'est plus simple. Donc, en général, on arrive sous les coups de entre 14h et 16h, suivant les répétitions qu'on a à faire. Et puis, on va répéter tous ensemble. On va refaire un filage du spectacle, donc on va refaire toutes les pièces, comme tu disais, tous les tableaux, un par un. On corrige, on a eu des corrections par rapport au spectacle précédent, et pour l'instant, on fait ça. Ensuite, on part se préparer dans nos loges, donc on se maquille, on se prépare, on se coiffe, et puis on a un petit moment, on appelle ça faire notre mise, où on va du coup en sorte de costumerie chercher nos costumes, et on les empile sur notre chaise de l'ordre du tableau le plus loin au tableau le plus proche pour qu'on puisse se changer rapidement. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est tout prêt, il y a deux artistes qui partent faire l'accueil, donc ils accueillent le public. Pendant le reste du temps, les autres s'échauffent. Et puis après, on est prêt à monter sur scène jusqu'à minuit environ.
C'est les artistes qui accueillent le public?
Exactement.
C'est une sorte de rituel ou c'est une sorte d'héritage ou c'est vraiment comme ça que ça se fait? Il n'y a pas forcément de...
Alors étant donné que du coup la danse est un milieu qui est lointain pour moi, je ne sais pas trop, mais je crois que ça se fait beaucoup. En fait, ça permet d'avoir une approche plus humaine pour les gens. Et aussi, on en profite pour faire des photos avec eux pour qu'ils puissent repartir avec de beaux souvenirs. Souvent, on met des costumes de plumes immenses pour que dès qu'ils arrivent, ils se disent « waouh quoi ». Le voulez-vous ? Waouh, ils nous voient, ils sont apprêtés.
Ils ont envie de revenir aussi.
Exactement, exactement.
Ok, très bien. J'avais, je pense, une autre question, mais je me demande si je viens pas de l'oublier. Ah si. Est-ce que, on va revenir un petit peu sur le thème de la musique, est-ce qu'il y a des musiques qui vous ont marqué pendant certaines prestations?
Alors,
ou des compositeurs, ou je sais pas.
On est obligé de citer le célèbre « Voulez-vous de ABBA ?» On n'a pas le choix.
Ah,
on danse
okay.
à chaque fois, voire deux fois par soir. Donc, on est quand même obligé.
Okay.
Bah oui, c'est quand même l'hymne du cabaret. Et puis, personnellement, je dirais que j'aime beaucoup le... Alors, je ne sais pas si c'est plutôt un compositeur ou plutôt un musicien, mais Ibrahim Malouf.
Oui, musicien.
Et voilà. Et le premier spectacle que j'ai composé avant, parce qu'avant, je travaillais dans les campings, j'étais chorégraphe pour les campings, ce qui n'a rien à voir. Et j'avais composé mon premier spectacle sur... j'ai un accent vraiment médiocre, mais True Story, je crois qu'elle s'appelle, cette chanson, qui est vraiment magnifique.
Ah, ça me dit rien.
T'iras écouter.
Ok, j'irai écouter ça. Alors, j'ai retrouvé ma question. Maintenant que vous êtes déjà, danseuse de cabaret, notamment au cabaret Voulez-vous, vous avez déjà accompli quelque chose et relativement tôt dans votre vie, qu'est-ce que vous pourriez envisager, par exemple, dans la prochaine décennie à venir? D'un point de vue personnel.
Personnellement, c'est Alice qui parle. c'est un métier où on bouge beaucoup. On ne reste pas souvent à faire une carrière de 20 ans dans la même entreprise. Donc ça arrive beaucoup que les danseurs s'en aillent, qu'il y ait beaucoup de remplacements, que ça tourne au niveau des équipes. Donc oui, j'aimerais bien voir d'autres cabarets, d'autres expériences, voyager, parce que c'est un métier qui... peut nous permettre de faire des tournées, de voyager, etc.
Mais le voulez-vous, ce qui est génial avec, c'est qu'en fait, étant donné que c'est la première chaîne de cabaret en France et qu'elle est en train de se développer, eh bien en fait, il y a tellement d'opportunités de travail et d'évolution à l'intérieur de celle-ci que par exemple, pour les artistes qui sont plutôt casaniers comme moi et qui aiment rester, moi, mon rêve serait pourquoi pas devenir assistante de direction artistique et pouvoir aller voir ce qui se passe en costumerie, pouvoir fabriquer mes propres plumes, pouvoir aider les autres établissements à se former, passer des auditions.
Réaliser tes spectacles aussi?
Pourquoi pas aider le directeur à donner certaines idées, carrément, mais plutôt travailler à l'envers du décor. Regarder comment les effets spéciaux sont mis, inventer un nouveau spectacle pour les enfants, aller représenter le cabaret pour des salons. Ça, moi, j'adore. J'aime tellement l'entreprise que... Enfin, ce cabaret, j'aime bien l'image qu'il renvoie et j'aimerais pouvoir qu'il se développe davantage.
Ok. Ouais. Alors, j'ai une dernière question. J'imagine que vous, avec votre métier, vous avez, comment dire, parfois les gens, quand vous dites ce que vous faites, ils vous sortent un peu des clichés. Moi, par exemple, en tant que DJ, on me sort souvent des clichés sur les DJ, le monde de la nuit, tout ça. C'est quoi un peu les clichés pépites que vous avez entendus, si vous en avez entendu?
Waouh.
Il y en a tellement.
Beaucoup. Bah, en fait, on nous confond beaucoup avec des go-go danseuses, souvent, ouais. Ou des stripteaseuses.
Alors que c'est pas du tout le même contexte.
Ou souvent, ce qu'on nous dit le plus, c'est « Non, mais votre métier, sinon, c'est quoi ?» Enfin, c'est quand votre passion, on a compris, mais votre métier.
C'est quoi votre vrai métier?
C'est quoi votre vrai métier?
Oui, ça, je connais aussi.
Ils pensent beaucoup, oui, que c'est un loisir et qu'on fait ça à côté, alors que c'est vraiment un métier
à
temps plein.
C'est voilà,
un
c'est
hobby.
Ça. Non, votre vrai sport.
Voilà.
Ah, mais la danse, c'est un sport? Ah oui.
Oui. Ah et oui. Oui, il y a ça aussi. Et toi, Éléonore, est-ce qu'on t'a sorti des clichés sur ton métier de wedding planner?
Plein. Peut-être un petit peu trop.
T'en as un petit cliché pépite?
Ouais, bah, je crois que le traditionnel, c'est bon, une fois que la saison des mariages est finie, vous faites plus rien. T'es en vacances.
Ah, alors, pas mal celui-là.
Ouais, bah, en fait, comme un mariage, ça prend minimum un an à organiser. Le travail, il se fait bien avant. Donc, ouais, on est là le jour J, c'est clair. Mais il n'y aurait pas de jour J si je ne travaillais pas non-stop tous les jours et toutes les semaines et tous les mois de l'année. Donc, ouais, je dirais que c'est celui-ci.
Ok, très bien. Eh bien, j'espère que déjà, les gens, en écoutant cette émission, ils auront une idée plus claire. Ils ne sortiront pas de clichés si jamais ils vous
croisent. On ne leur en veut pas.
Si jamais ils vous... Non, on ne leur en veut pas. Mais bon,
on est là pour leur... Ouais. Leur expliquer.
C'est ça.
Oui.
Lilou, Alice, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Enfin, on vous retrouve, voulez-vous, évidemment, mais
exactement,
est-ce que vous avez des dates à annoncer
sur Instagram? Alors, des dates, on travaille du coup toute l'année.
Ouais.
Là-bas, le midi ou le soir, vous avez le choix, suivant vos préférences. Et puis, bah, vous pouvez retrouver le cabaret sur Instagram. Il me semble que c'est voulez-vous spectacle dîner off. Enfin, vous tapez voulez-vous, normalement, ça devrait être référencé. Et puis, en personnel, oui, sur Instagram également. Il me semble que c'est... Alors, je suis vraiment pas sûre. Mais il me semble que c'est Lilouche, tiré du bas HRV. Et toi?
Et Alice, tiré du bas L, E2LE.
Eh bien, très bien. Merci à vous toutes.
Ben, merci à toi.
Là, il y a Log qui est derrière moi, qui fait les 100 pas, qui est prêt à commencer son DJ set. Tu es prêt, Log? Ok, super. Je vais monter le son de la platine. Je vous remercie encore une fois d'être venu. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et j'adore mettre un peu... en lumière un peu tous ces métiers issus de la culture qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, j'espère que vous, très chers auditeurs, vous avez aimé découvrir ces métiers. Et je laisse la parole, ou plutôt le DJ set à Log pendant une petite heure, et puis je terminerai par une petite demi-heure de DJ set en vinyle. Vous en avez l'habitude si vous connaissez l'émission. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.
She's my friend. fresh groove. I'ma take 10 steps, then I'm taking off 5 miles.
Hello, new world, all the boys and girls. I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lie. Whoa.